cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 22 juin 1994.
Dernier cours de l'éthique du semestre de l'année scolaire. Et on a ouvert un tout petit peu le chantier éthique personnelle, éthique familiale, éthique politique. On a ouvert le chantier. C'est un chantier très vaste et très important, je crois, pour nous. Et on peut le prendre au plan chrétien. Au plan chrétien, on verrait qu'il y a une éthique chrétienne, il y a une famille chrétienne. Quid de la politique chrétienne? Sur la famille, un chantier. au sens tout à fait rigoureux. Elle regarde les moyens. Les moyens ordonnent à la fin. Elle connaît la fin. Est-ce que c'est la prudence qui découvre la fin? Non. Notre finalité est découverte par quelque chose de plus profond que la prudence. Je crois qu'on pourrait faire l'analogie, vous voyez, entre l'intelligence et la raison, la sagesse et la prudence. Alors, évidemment, en est-il fondamentalement humaine? La sagesse est peu développée. Elle est en attente. Par l'amitié. Et au fond, ce sera l'amitié, l'amour d'amitié, qui va exiger d'aller plus loin. Puisque l'ami ne peut pas être une fin absolue. C'est une fin, mais ce n'est pas une fin absolue. Il y a une réalité, une personne, au-delà de l'ami, qui est le Créateur. D'où l'éthique religieuse. Vous voyez, l'agencement entre éthique fondamentalement humaine et éthique religieuse, c'est cette sagesse pratique qui est la prudence, qui pose le problème. instrument. Il est serviteur, mais ce n'est pas le maître. Alors qu'il aurait le désir. Et vous voyez, ça, c'est quand même très important parce que c'est le passage de l'éthique personnelle à l'éthique familiale. L'éthique familiale commence en reconnaissant qu'il y a une limite au pouvoir de l'homme. L'homme ne se donne pas à lui-même la fécondité, le pouvoir de fécondité. Il le constate, ou il constate l'inverse, mais il ne se donne pas à lui-même ce pouvoir de fécondité. Et c'est ce pouvoir de fécondité qui est pourtant au point de départ, non pas de la famille dans sa structure première, qui est l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse, avec le don des corps, mais qui est le rayonnement de la famille. La famille n'est parfaitement elle-même qu'avec l'enfant. Autrement, elle est toujours en attente. Elle n'est parfaitement elle-même qu'avec l'enfant. Et c'est très délicat, les rapports de la structure de la famille qui repose sur le choix de l'époux et de l'épouse. Et ça, c'est la structure qui est de l'ordre de l'amour et qui relève de la volonté. On est libre d'aimer telle personne. L'époux est libre d'aimer l'épouse. Et l'épouse est libre de répondre à ce choix. Et cette liberté est capitale pour qu'il y ait famille, pour qu'il y ait union conjugale et famille. Autrement, il n'y a pas famille. Si l'époux choisit et que l'épouse tacitement refuse, mais qu'elle n'a pas le courage pour telle ou telle raison de refuser, et qu'elle confie ça à son ami, ou elle confie ça à quelqu'un, à sa mère, je suis forcé, mais je vais à ce mariage, à la bénédiction du mariage, avec la corde au cou. Il y a des personnes qui font comme ça au mariage. J'en ai connu. Et qui n'ont pas osé le dire. Et qui l'ont dit après. Et où c'était réel. Et évidemment, alors, à ce moment-là, il n'y a pas de mariage. Puisqu'il faut la liberté pour qu'il y ait l'amour. L'amour d'amitié. Oui, c'est très très complexe. Hein. C'est là où tout le droit va jouer. Essayer de comprendre comment c'est vraiment l'amour des conjoints qui constitue la famille, le couple, avec le don des corps. S'il y a refus des dons des corps dès le point de départ, il n'y a pas famille. La fécondité ne constitue pas la famille. La fécondité est un fruit, un rayonnement, une conséquence qui permet à la famille d'avoir son état parfait, mais ne structure pas la famille. C'est aussi très important de comprendre ça, ce qui n'est pas commode à bien saisir. C'est la question de la finalité et de l'efficacité. L'efficacité ne structure jamais. Dites-vous bien ça, c'est la finalité qui structure. C'est la finalité. La finalité est directement liée à la forme. Donc elle peut structurer. Tandis qu'au contraire, l'efficacité ne structure pas. L'efficacité permet le rayonnement. Quand cette efficacité dépend directement d'un amour personnel et d'un choix personnel. À partir de là, on peut saisir ce qu'il y a de tout à fait nouveau dans la famille. Ce qu'il y a de tout à fait nouveau dans la famille, c'est que apparaît l'autorité. Explicitement, point de vue philosophique, hein. Explicitement, l'autorité, c'est les parents qui ont autorité sur leur enfant. Une autorité limitée, une autorité au service de la croissance de l'enfant. Mais leur autorité ne porte pas sur la substance de l'enfant, puisque c'est pas eux qui décident la fécondité. l'enfant est confié aux parents. Et la croissance est liée à la vie de l'enfant et sa vie substantielle, au développement de sa personne. Et la première paideia, la première éducation, relève directement des parents. Elle leur est confiée. L'État n'a pas le droit, d'intervenir sur le choix de l'amour d'amitié. C'est quelque chose de sacré, cela. Ça fait partie de la personne humaine et sa propre finalité, puisque c'est la découverte de sa propre finalité première. L'autorité apparaît donc au niveau de la prudence. conception politique, voir si l'aspect politique est naturel ou si l'aspect politique est conventionnel. C'est toujours très intéressant de voir ça. Si l'aspect politique est conventionnel, il est évident que l'aspect artistique va l'emporter. Machiavel. Et c'est intéressant de regarder la manière dont Machiavel conçoit la politique. Toujours intéressant de regarder les monstres. Parce que quelquefois, les monstres se multiplient plus vite que la réalité vraie. Et Machiavel, c'est intéressant de lire Le Prince de Machiavel. Il ne faut pas peut-être lire ça tout de suite en première année, mais dès que vous faites un secteur politique, il faut regarder Machiavel. Parce que c'est important. Il faut lire la politique d'Aristote. C'est plus difficile, et c'est capital. Il faut lire la République de Platon, c'est capital, plus facile à lire. Et la lire avant Aristote, puisque de fait, Aristote est en grande partie une réponse à Platon. Une réponse à Platon, c'est-à-dire montrer les erreurs de Platon et aller plus loin. C'est là où vous allez voir le point de vue de la prudence éthique, personnelle, familiale, qui va se transformer en éthique politique, en prudence politique. Et parce qu'il y a la prudence, il y a une éthique politique. Il n'y a pas que l'art, il y a l'éthique politique. Si déjà l'art existe pour la famille, l'art va exister beaucoup plus pour le point de vue politique. Et ce sera toujours les relations entre art et prudence politique qui vont donner des visions différentes de la politique. Et ça, je crois que c'est très important à comprendre. Parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. Et dans la mesure où on a certaines expériences politiques, c'est important d'y réfléchir. Tous, nous avons une expérience politique. Même ceux qui n'ont qu'une seule expérience politique, voter. C'est une expérience politique. C'est un acte politique qui relève de votre prudence, qui relève de votre art. Et l'Église, tout en reconnaissant que la vie religieuse nous met en dehors du point de vue politique, l'Église demande de rester des hommes qui votent. Et alors, je cherche les raisons, ceci est très intéressant de les voir, mais c'est un fait. Alors, au Moyen-Âge, où l'État impliquait une alliance avec l'Église, c'était différent. On laissait le religieux tranquille. Tandis que, actuellement, c'est ce qui se passe. C'est comme pour le service militaire. C'est encore là. L'Église qui dit, oui, vous n'avez pas nécessairement à vous séparer, à poser, voyez, l'espèce de code conscience, en disant je ne peux pas faire le service militaire pour telle ou telle raison, puisque je ne peux pas tuer. Le moine, le religieux, le prêtre n'a pas à tuer, porter les armes. Alors, voyez le problème nouveau qui va se poser avec le point de vue politique. C'est toujours la prudence et l'autorité. L'autorité du Père, l'autorité qu'on a sur soi-même, fait ceci, la décision qu'on a prudentielle. L'autorité au niveau politique. Vous avez trois types d'autorités différentes. En vous demandant du reste si l'autorité vous avez vous-même est vraiment une autorité ou si c'est une autorité métaphorique. Quand, point de vue prudence, vous décidez quelque chose, vous dites j'ai décidé ça prudentiellement, toutes ces autorités relèvent de la prudence. Alors je vous renvoie à ce petit passage d'Aristote qui est très intéressant, qui serait intéressant à commenter et à réfléchir. Éthique à Nicomaque 6, 7, c'est-à-dire 1141 à 15. C'est la sagesse et la prudence. C'est très important de saisir la différence entre la sagesse et la prudence. Il est clair, par conséquent, que la sagesse sera la plus achevée des formes du savoir. À la Sophia. Le sage doit donc non seulement connaître les conclusions découlant des principes, mais encore posséder la vérité sur les principes eux-mêmes. C'est ça qui caractérise la sagesse. C'est que le sage saisit directement les principes propres de sa conduite et pas seulement l'application. La sagesse sera ainsi à la fois raison intuitive et science. Donc elle relève de l'intelligence. Elle qualifie l'intelligence et pas seulement la raison. Science munie en quelque sorte d'une tête et portant sur les réalités les plus hautes. Il est absurde en effet de penser que l'art politique ou la prudence soit la forme la plus élevée du savoir. Et c'est ce point extrêmement important. Parce que les fameuses discussions sur les débuts de la politique, le bien commun est plus divin que le bien particulier. La sagesse ne nous fait pas regarder le bien particulier, puisque la sagesse est source de contemplation. Et on contemple la fin, c'est-à-dire le bien personnel, en définitive Dieu. La sagesse regarde le mystère de Dieu, donc le bien qui dépasse tout, et qui est au-delà du particulier, du commun, puisque c'est l'absolu. absolu qu'on saisit par la sagesse est au-delà de toute autorité. C'est le fondement de toute autorité, mais au-delà. Ça montre, vous voyez, la liberté totale de la contemplation au-dessus. Alors toute la question qui se pose, est-ce que la prudence politique est sagesse ? Est-ce que la prudence politique reste prudence ? Au-delà de la prudence politique, il y a la sagesse. Et la sagesse seule nous fait comprendre notre fin personnelle, absolue, qui est la contemplation de Dieu. Et cette contemplation de Dieu demeure la même, hein, comprenons bien, au niveau prudence personnelle, prudence familiale, prudence politique. Au-delà de ces prudences, il y a la sagesse. Et la sagesse est une, alors que la prudence a trois modalités différentes. Ces trois modalités, pourquoi ? Parce que la prudence regarde le bien relatif, celui qui me permet de me dépasser et d'atteindre le bien absolu. Voilà comment, je crois, on doit aborder le problème. Ensuite, il faut regarder quel est le caractère particulier de cette prudence politique, qui a quelque chose de plus que la prudence familiale et quelque chose de moins. Parce que la prudence familiale, puisque la famille est plus unie à la personne que la prudence politique, c'est sûr. La prudence politique n'est pas source d'un nouvel être. La prudence familiale est source d'un nouvel être. C'est l'homme qui décide, l'homme, l'époux et l'épouse. Et donc qui donne au caractère de la prudence familiale un caractère très très particulier. Choisir qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas. Choisir le nombre d'enfants. Ça, c'est une prudence familiale qui a quelque chose de substantiel. La prudence politique est au-delà de cette prudence. Donc, elle ne regarde pas directement ce point de vue substantiel. Et cependant, elle a quelque chose de plus que la prudence familiale, parce qu'elle touche le bien commun, qui est plus divin que le bien particulier. Et elle touche le bien commun en vue de la contemplation. Normalement, si c'est en vue de l'économie, voyez, vous voyez qu'un aspect de la prudence politique. La prudence politique dépasse ce point de vue de l'économie. Ce point de vue de l'économie est l'aspect matériel, l'élément matériel. Il doit tout le temps regarder le point de vue de la finalité de l'homme, qui est une finalité à la fois de l'amitié Calendula.